Bonjour et bienvenue dans l'Info C'est Clair. Carburant, courses alimentaires, loyers, tout augmente, sauf les salaires. Alors le gouvernement promet bien une loi pouvoir d'achat, mais cela sera-t-il suffisant? L'Info C'est Clair est intitulé « Pouvoir d'achat, le plus dur est devant nous ». Nos invités, Jade Grandin de l'Éprevier, vous êtes journaliste économie à l'Opinion, à lire en une de votre journal, retraite déjà des doutes sur la réforme. Jean-Marc Daniel, économiste, professeur émérite à l'ESCP Business School, auteur de « Il était une fois l'argent magique », Comptes et mécomptes pour adultes, c'est au Cherche-Midi. Éric Champarneau, vous êtes cofondateur de la société de conseil Seaways. Merci de participer à cette émission en direct. Donc on l'a dit, avec le boom de l'inflation, les consommateurs ont commencé à réduire leurs achats et à se reporter sur les articles premier prix. Reportage dans les rayons des supermarchés avec Cécile Delaguerrivière, Michel Perrier et Pauline Juvigny.
Cette habitante de région parisienne ne fait plus ses courses alimentaires de la même manière. Désormais, elle scrute les prix à la loupe, produit par produit, comme cette vinaigrette.
La semaine dernière, je suis venue la chercher, donc j'en ai eu pour 2 euros pour ma sauce. Et là, justement, je reviens une semaine après, elle est déjà à 2,15 euros. Ce qui est flagrant, parce que 15 centimes en une semaine, ça me paraît exagéré.
Face au prix qui explose, elle achète beaucoup plus de marques de distributeurs réputés moins chers, comme beaucoup de Français. Leurs ventes ont bondi de 15,8% en un an. A l'inverse, les grandes marques nationales reculent de 3,5%. Avec dans les têtes, l'achat systématique aux promos.
Éric Champarneau, on constate déjà que les habitudes, face à ces hausses de prix, les habitudes des consommateurs, nos habitudes, ont changé dans le caddie.
Oui, ça change et ça accélère. Bon, la consommation a diminué de 1,3% au premier trimestre. Et aujourd'hui, on réduit, on reporte et on renonce parfois à la consommation. C'est intéressant, dans le reportage, on voit une personne acheter une vinaigrette toute faite, mais on voit de plus en plus de gens faire eux-mêmes leur cuisine. Bon, la solution, ça va être de faire la vinaigrette à la maison et en payant encore un petit peu moins cher. Donc on a vraiment des arbitrages qui sont de plus en plus serrés, de plus en plus d'attention dans le choix des produits.
Jade Grandin de l'Éprevier. On va voir quelques exemples de prix. Pâtes de marque, plus 19,9%. Steak haché, plus 12,8%. Œufs premier prix, plus 10,3%. On a l'impression que ce sont en plus les choses pas chères qui augmentent le plus, comme si on voulait s'acharner sur précisément les articles qu'achètent en priorité les Français les plus modestes.
Personne ne veut s'acharner sur eux, mais c'est en effet ce qui se passe et ça s'explique parce que les marques de distributeurs, les marques discount ou low cost ont moins de marge en fait de distribution. Donc le distributeur a moins de levier pour amortir la hausse des coûts de production. En fait, donc la guerre en Ukraine enchérit tout le coût des matières premières, des céréales, de l'huile.
Le prix des céréales a doublé et donc le prix des pâtes, il suit plus quand c'est premier prix, c'est
exactement.
Ça
Exactement, puis il y a plein d'effets en chaîne parce qu'en fait, on utilise des céréales pour nourrir les animaux, on utilise du gaz pour faire de l'engrais, donc ensuite ça se répercute sur les poulets, l'œuf, etc. Donc là, on a en France, en effet, les prix alimentaires qui augmentent et qui sont appelés d'ailleurs à plus augmenter. Et ce qui est paradoxal, c'est que c'est les marques qui étaient les moins chères au départ parce qu'il y avait le moins de marge qui augmentent le plus. Donc en effet, les consommateurs qui étaient le plus à l'euro près sont les plus pénalisés pour le moment parce que sur les marques qui étaient un peu plus chères, bah, il y a une marge. Et là, le distributeur peut absorber un peu en réduisant ses marges pour éviter que ça se répercute trop. Et ce qui est intéressant, c'est que pour la grande distribution, c'est un véritable casse-tête en ce moment de se dire comment je vais répercuter cette hausse de mes coûts de production. Il faut savoir que dans l'alimentaire, c'est 25% les hausses de coûts de production agricole. Comment je répercute? Est-ce que je baisse ci ou ça pour faire en sorte que les consommateurs continuent d'acheter, etc.
Et ne fuient pas, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, Éric Champarneau. Jean-Marc Daniel, on parle de produits alimentaires, on parle de pâtes, on parle de produits basiques. Est-ce que ces renoncements à l'achat, tout ça participe à un sentiment de paupérisation, y compris auprès de Français qui sont en CDI, comme si aujourd'hui, finalement, face à cette inflation, avoir un travail, ça ne suffisait plus à remplir le caddie pour vivre décemment.
Oui, oui, à mon avis, il y a trois mécanismes qui jouent. D'abord, les prix qui augmentent, ce sont des prix auxquels on est confronté au quotidien. C'est-à-dire que quand on calcule l'indice des prix, normalement, il y a tout un tas de produits, mais la fréquence d'achat n'est pas directement prise en compte dans le calcul de l'indice des prix. Et donc, on est pâte alimentaire, on en achète pratiquement toutes les semaines, alors que un ordinateur, on n'en achète pas fréquemment. Donc, c'est pris en compte. Alors, l'INSEE corrige tout ça, mais il y a quand même un sentiment chez les gens d'un vécu au quotidien de l'évolution des prix. Alors que si on regarde l'indice des prix depuis 2008-2009, qui était la dernière phase de récession, de crise économique forte que nous avons connue, l'augmentation des prix en moyenne en zone euro a été de 1,4%.
Et donc... Et on s'y était habitué. Les prix ne bougeaient plus.
Les prix ne bougeaient plus, même ils baissaient. Rappelez-vous, il y a encore 4-5 ans, on nous disait le drame de ce qui se passe, c'est que les prix baissent. Ouais. Et donc, on est dans une phase de déflation. Bon. Et donc, il y a une espèce de mémoire qui s'efface, d'autant plus vite qu'on est tous les jours face à cette hausse des prix. Le deuxième élément, c'est que les économistes ont assez bien théorisé ça au travers de ce qu'on appelle les effets Giffen et les biens Giffen. Si vous augmentez le prix des pâtes alimentaires, on l'a vu, les pâtes alimentaires augmentent plus que que la viande hachée.
Et j'ai pas mis, mais le premier prix augmente de 43%. Les pâtes de marque, c'est plus 20, mais les marques premier prix, c'est plus 43.
Exactement. Et alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? Le consommateur se dit, j'ai plus les moyens d'acheter de la viande. Donc, je vais, et comme j'ai quand même besoin de me nourrir, je vais acheter des pâtes plus fréquemment dans mes repas. Avant, je faisais un repas de pâtes, un repas de viande. Maintenant, je fais deux repas de pâtes. Moyennant quoi, la conséquence, c'est que la demande sur ces produits, assez paradoxalement, alors que le prix augmente, la demande augmente elle-même. Et donc, le commerçant a plutôt tendance à en profiter. Et donc, encore une fois, ça a été théorisé dès la fin du 19e siècle par des économistes. On appelle ça l'effet Giffen. Il y a un certain type de biens où, alors que normalement on pense que plus le prix augmente, moins on en consomme, ces produits de première nécessité n'obéissent pas à cette loi assez naturelle de l'augmentation des prix fait baisser la demande. Puis le troisième élément, c'est quand même que la concentration de ces hausses de prix est sur deux secteurs, clairement, l'énergie.
Ouais.
Et donc là, on peut penser que c'est durable et que... Et puis les produits alimentaires, et la question qui va se poser, c'est est-ce que c'est... durable, c'est-à-dire est-ce que c'est une remise à niveau ou est-ce que on va connaître comme dans les années 70 la valse des étiquettes, c'est-à-dire dans les années 70 le prix de certains produits changeait environ tous les mois, tous les deux mois, tous les
inflation
trois mois.
Inflation à deux chiffres sur plusieurs années. Hein.
Et ça jouait sur plusieurs années et les prix augmentaient très très régulièrement. Là, il y a une remise à niveau. Est-ce qu'on va en rester là ou est-ce qu'on va continuer à voir... Je rappelle, enfin, sans vouloir tout ramener à moi, ma génération, quand j'ai commencé à travailler, on augmentait les salaires tous les trois mois de 2%.
Alors justement, faut-il augmenter les salaires puisque le coût de la vie augmente? Est-ce que les salaires doivent augmenter? Ben écoutez, certaines entreprises le peuvent, le font. D'autres, en revanche, c'est beaucoup plus compliqué. Reportage dans deux entreprises de Gaspard de Florival et Régis Maté.
Ouvrier dans une usine ou salarié en entreprise. Pour tous, un coût de la vie toujours plus élevé. Alors Bercy met la pression et demande un effort aux entreprises sur les salaires. Cette coutellerie de Seine-et-Marne, elle, a déjà fait un geste, 5% d'augmentation pour les 50 salariés. Justine Vandensten grave et personnalise ses couteaux. Depuis deux mois, c'est 80 euros nets supplémentaires qui s'ajoutent à ses 1550 euros de salaire.
Vu l'inflation du prix du gasoil, j'avoue que ça permet de faire un plein de plus sans finir dans le rouge à la fin du mois et que ça donne quand même un peu plus de motivation à venir au travail.
Pour faire face, l'entreprise a décidé d'augmenter de 5% le prix de ses couteaux, un choix assumé par le patron qui se dit même prêt à aller plus loin s'il le faut.
On réétudiera et on fera ce qu'il faudra, bien évidemment. Si on doit réaugmenter nos salariés, puisque l'inflation continue, on le fera.
Vous ferez de la même façon, vous réaugmenterez vos tarifs?
Ce sera difficile. Je pense qu'il faudra cette fois-ci rogner sur nos marges.
Une hausse des salaires plus forte que l'inflation, toutes les entreprises disent ne pas en être capables. Pour les 19 salariés de cette société de déménagement, cela sera 2% de plus à la fin du mois. Pour le patron, impossible de verser davantage, car les frais de l'entreprise ont explosé.
Le premier coût, c'est le gasoil. Un carton, c'est 40 à 50% de hausse, donc on l'utilise pour différents emballages.
20 000 euros de surcoût qui ont déjà fait grimper ses tarifs. De nouvelles hausses feraient fuir la clientèle, selon lui.
Les prix trop hauts, y a des gens qui vont essayer de se débrouiller, soit le faire eux-mêmes ou faire appel à des déménageurs non qualifiés ou qui ne répercute pas forcément toutes les charges que nous, on peut avoir de notre côté, quoi.
Les salariés comprennent, mais sont un peu amers.
Quand nous allons faire nos courses, on voit bien que c'est... Enfin, les augmentations sont, à mon avis, de plus de 2%. Je n'ai pas fait le calcul réellement, mais je pense que c'est beaucoup plus que 2%. Donc, si on voulait vraiment rattraper, effectivement, l'inflation, je pense qu'il faudrait augmenter de plus que ça.
Selon une étude, une PME sur deux compterait augmenter le salaire de ses employés cette année.
Éric Champarnaud, ce qui frappe, c'est le fatalisme des salariés. On parlait des années 70-80, je parle sous votre contrôle, mais il y avait plus de revendications, il y avait plus de presque lutte des classes, là, au fond. Le salarié, il a l'air de dire, bah, je comprends mon patron, bon... C'est une question.
Oui. Effectivement, enfin, cela dit, je me méfierais un peu de l'eau qui dort.
Alors, est-ce qu'on peut avoir un troisième... une rentrée sociale un peu plus chaude avec ces prix qui augmentent et ces salaires qui ne suivent pas.
C'est difficile à prévoir, hein, ce qui déclenche un mouvement et le fait durer. Il est certain que si la situation perdure, qu'on est à 5% d'inflation, probablement un petit peu plus, parce qu'on a encore des augmentations de prix devant nous, dans l'alimentaire notamment, à ce moment-là, on risque d'avoir de sérieux soucis. On verra ce que le paquet...
Parce qu'on aura des salariés qui ne peuvent plus payer là, le dur, le loyer ou l'abonnement Internet.
Ils seront assignés à résidence. Pour certains, dans les problèmes de mobilité, le prix des carburants, quand on n'a pas les moyens de renouveler sur un véhicule qui consomme un peu moins ou un véhicule électrique. Donc, il faudra probablement augmenter des salaires pour les entreprises qui le peuvent. Et puis aussi, on a un petit souci démographique. Il y a le chômage qui a diminué. Il y a certains secteurs qui ont beaucoup de mal à recruter. Donc il y a aussi cette question de l'attractivité des salariés pour pouvoir continuer de travailler.
La jeune femme qui disait, tiens, une augmentation de salaire, bon, ça fait du bien au porte-monnaie. Et puis ça motive un peu plus.
Voilà, c'est ça. Il y a pas que la seule...
Comme si on se disait, je passe mes journées à faire le plein d'essence pour aller travailler et ça ne suffit pas à remplir mon caddie.
Ça, dans certaines catégories, effectivement, on survit, on n'a plus de capacité d'épargne, on n'en est pas beaucoup, on se retrouve à plus en avoir. Et puis je disais, le renoncement, on pourrait se retrouver dans des situations où il va falloir choisir entre un soin médical, entre une dépense de consommation ou une autre, on se chauffe ou on mange de la viande. Et ça crée quand même un terreau contestataire pour le moins.
Jade Grandin de l'Éprevier, si on se met maintenant du côté des entrepreneurs, les entreprises qui voient leurs coûts augmenter, hein, plus 14%, nous dit Allianz, pour les prix à la production dans les entreprises agroalimentaires. Est-ce qu'elles peuvent aller voir M. Leclerc en lui disant bah, « Tiens, M. Michel-Édouard Leclerc, c'est plus 14% mon produit. » Est-ce qu'elles pourront répercuter ces hausses ou est-ce qu'on risque d'avoir des faillites? Je veux dire, on n'en a pas eu pendant le quoi qu'il en coûte. Est-ce que l'inflation pourrait faire finalement plus de mal que le Covid dans notre tissu industriel?
C'est une des raisons pour lesquelles il y a des réticences en ce moment à dire « Ah oui, il faut absolument que toutes les entreprises augmentent les salaires ou il faut bloquer tous les prix. » C'est la crainte que les entreprises qui ont jusqu'ici bien résisté, qui ont maintenu l'investissement et l'emploi, alors que c'est les deux premières craintes quand il y a une crise économique, c'est que l'investissement et l'emploi baissent. Là, ça n'a pas été le cas. Donc, c'est un peu les points positifs en sortie de crise. Et maintenant, on se dit « Bon, bah, est-ce que... » ces entreprises qui font face quand même à la flambée de leurs coûts, des matières premières, des prix de l'énergie, les chaînes d'approvisionnement sont bloquées, c'est compliqué, ils ont du mal à recruter. Est-ce qu'on leur remet une couche en leur disant « bon bah, vous allez toutes augmenter les salaires ?» Et je pense qu'il faut vraiment, sur cette question des salaires, distinguer le cas général et les cas particuliers. Parce que les gens peuvent être surpris en se disant « mais avant la crise, on disait « il faut augmenter les salaires », tout le monde disait ça, Bruno Le Maire disait aux entreprises « augmenter les salaires ». Pourquoi tout d'un coup, on a un peu la question inverse en disant « attendez, ne faut-il pas augmenter les salaires ?» Et en fait, c'est que, bien sûr, les entreprises qui ont des marges de manœuvre doivent le faire et il y a des salaires qui restent trop bas. La crainte en ce moment, c'est de retourner dans une spirale d'indexation où il y aurait vraiment tous les salaires de tout le monde augmenteraient autant que l'inflation, autant que les prix. Et du coup, ensuite, les prix augmenteraient. En fait, c'est un peu cette crainte d'indexation généralisée des salaires qui fait qu'on est un peu plus réticent en ce moment. Et d'ailleurs, il y a des économistes qui étaient plutôt pro-dépenses publiques, qui pendant la crise disaient « il faut que l'État s'endette, il faut soutenir les salariés », qui aujourd'hui disent « attention, si vous voulez faire des rattrapages salariaux, ne le faites pas par des hausses de salaire pérennes, attendons un an de voir si l'inflation décroît et donnez plutôt des primes exceptionnelles à vos salariés cet été, clause de revoyure en 2023 ». Et ça peut paraître étonnant de se dire, tiens, ces économistes disent ne donnez pas de hausse de salaire généralisée, pérenne, parce qu'ils craignent que l'année prochaine, les prix de l'énergie reviendront beaucoup plus bas, voire baisseront. Les prix de l'alimentaire peut-être aussi. Et ils disent, mais dans ces cas-là, peut-être qu'il y aura même de la déflation, c'est possible. Et nous, on aura augmenté les salaires de 10% et ça pourra créer des problèmes.
Jean-Marc Daniel, est-ce qu'on peut considérer que l'inflation, c'est une espèce de mistigrie et qu'on essaie de refiler aux autres? Alors on dit, tiens, est-ce que c'est le salarié qui va payer là, ou bien le distributeur, le client, le fournisseur et qui va cela? Qui va devoir assumer cette hausse
oui,
des prix?
Oui, le grand enjeu, effectivement, et le grand jeu aussi, c'est d'essayer de faire en sorte de préserver son pouvoir d'achat sur le dos des autres. Voilà. Alors, sur les salaires, il y a quand même des garanties. On parle d'indexation et le SMIC est indexé. Et donc, il y a une partie des salariés qui, de toute façon, sont protégés, qui sont les plus bas salaires, et ça a des répercussions sur l'ensemble de la grille salariale. Quand vous augmentez le SMIC de 1%, entre le deuxième et le sixième décile de répartition des revenus salariaux, hein, les gens qui sont entre 10% et 60% de la distribution des salaires ont une augmentation de 0,2% de leur salaire.
Donc, pourquoi? Parce qu'il n'y a rien d'automatique. Là, c'est le patron qui se sent un peu gêné. Qui dit, bon, allez, hop.
La grille se comprime. Le patron, effectivement, pour garder une certaine forme de hiérarchie entre le salarié qui est au SMIC et les autres qui sont immédiatement au-dessus, est obligé de bon. Ouais. Donc, il y a une partie des gens qui sont protégés. Et après, les autres, c'est comment est-ce qu'on répartit effectivement la facture? Dans les années 70, pour revenir aux années 70, l'inflation, elle était liée à des mécanismes où les entreprises augmentaient leurs prix. Là, celui qui bénéficie de l'augmentation de prix, il nous est extérieur. C'est-à-dire que l'essentiel de l'inflation est une inflation importée.
C'est le pétrole qu'on achète plus cher à l'Arabie Saoudite.
Absolument. C'est-à-dire celui qui bénéficie à l'heure actuelle de nos ponctions sur le
pouvoir d'achat. C'est Poutine et l'Arabie Saoudite.
Exactement. C'est Poutine et l'Arabie Saoudite. Et donc, on n'a pas beaucoup d'action sur eux. C'est-à-dire que, on le voit bien, les chefs d'entreprise qu'on a vus, ils ont dit on est soumis à de la concurrence. Donc, plus on est en situation de concurrence, moins on peut augmenter ses prix. Et quel est celui qui n'est vraiment pas du tout en concurrence? C'est l'Arabie Saoudite, c'est Poutine, c'est les producteurs de pétrole. Et au niveau international, quand vous regardez l'évolution de la situation, vous avez des pays qui sont en train d'accumuler des ressources extraordinaires. Le taux de croissance en Arabie Saoudite est de 10%. Et le Canada est en train de devenir un des pays les plus excédentaires de la planète.
Parce qu'ils exportent du pétrole de schiste.
Du pétrole de schiste est à 110-120 dollars le baril. Ça leur coûte 60 dollars le baril, ils accumulent des excédents considérables. Et donc, vous avez une répartition au niveau mondial, effectivement, de la facture de l'inflation qui est au détriment du salarié des pays émergents et développés et en faveur des rentiers et producteurs de pétrole. Et alors, le dernier élément, c'est que pour lutter contre ça, un certain nombre de gens se disent, mais l'enjeu, c'est la facture pétrolière, elle est en dollars, essayons de faire monter le taux de change de notre monnaie par rapport au
l'euro.
Et donc, on fait monter l'euro. Quand vous regardez en 2008, le prix du baril de pétrole oscillait entre 145 dollars et 150 dollars.
Donc, bien plus qu'aujourd'hui, on est
bien
à quoi
110. On est entre 110 et 120 dollars. Et pourtant, le prix à la pompe pour les Français était beaucoup moins important. Pourquoi? Parce que à l'époque, 1 euro valait 1,60 dollars. Et donc maintenant,
l'euro était fort et on achetait beaucoup de choses avec.
Alors que maintenant, l'euro est faible. On est pratiquement à 1 euro égale 1 dollar. On est à 1 euro égale 1,05 dollars. Et donc des gens disent, il faut faire monter l'euro. Et pour faire monter l'euro, la solution qu'on a trouvée, c'est de faire monter les taux d'intérêt. Et donc on est un peu dans une course où tout le monde veut faire monter les taux d'intérêt pour essayer de faire
de soutenir la monnaie et de regagner un peu de pouvoir d'achat.
Sur les 20 pays du G20, je mets à part les États-Unis parce qu'ils ne vont pas faire remonter le taux de change par rapport au dollar, par définition. Je mets à part la Russie, sur laquelle je dirais juste un mot. Et puis, il y a 10 pays sur les 18 qui restent qui ont monté leur taux d'intérêt en indiquant explicitement que leur objectif, c'est d'essayer de
monter leur monnaie.
Leur monnaie par rapport au dollar. Et pourquoi je parle de la Russie? Parce que le rouble, elle a porté les taux d'intérêt, la gouverneure de la Banque centrale de Russie, à 20%. Le rouble qui avait été divisé par deux.
Il est très fort, là.
Il est très fort, maintenant. Donc, tout le monde dit, il n'y a qu'à faire comme la Russie. Sauf qu'à 20% de taux d'intérêt, je peux vous dire que...
Il y a beaucoup d'entreprises qui mettent la clé sous la porte.
Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Entre les entreprises et les États, à 20%, on souffre.
Alors, face à cette inflation qui paupérise les classes moyennes, les entreprises, on l'a vu, ne peuvent pas ou peuvent difficilement augmenter les salaires. Du coup, on se tourne vers l'État, ça tombe bien, en plus, on est à deux semaines d'une élection. Et du coup, le gouvernement promet une loi pouvoir d'achat pour juste après les législatives. Quelles sont les mesures qui pourraient être prises? Le point avec Olivier Poncelet et Guillaume Le Goff.
Les Français sont inquiets pour leur pouvoir d'achat.
2,50 pour faire 15.
Et ils attendent de leur nouveau gouvernement des réponses concrètes.
Les prix qui sont vraiment très très élevés, ils ont tout augmenté. Ça, j'espère que ce gouvernement va arranger ça. Il faut créer un principe de solidarité, trouver un système, je ne sais pas lequel, c'est leur travail.
Chèque alimentation, oui, ça peut être une bonne mesure, mais à savoir combien de temps ça va durer et qui peut y avoir le droit. Et voilà, au final, c'est éphémère pour moi. C'est pas très concret, on va dire.
Pour redonner du pouvoir d'achat, le gouvernement explore plusieurs pistes. La réindexation des retraites et des minima sociaux sur l'inflation, la distribution de chèques alimentaires, un nouveau coup de pouce à la pompe ou bien un triplement de la prime Macron dans les entreprises. Le projet de loi sur le pouvoir d'achat sera voté au Parlement après les élections législatives en juin.
Parnaud, faut être un peu schizophrène. D'un côté, on surtaxe l'essence, et puis de l'autre, on est en train de pérenniser une détaxe de cette surtaxe. C'est comme ça qu'il faut dire. Le moins 18 centimes par rapport à une essence qui, de toute façon, est surtaxée.
Oui. Et des sujets de schizophrénie, il y en a beaucoup, hein, parce qu'on a aussi un petit problème climatique, n'est-ce pas, de réduction de la consommation.
Donc on subventionne les énergies fossiles. Là.
Exactement, voilà. Donc là, il y a un petit souci. Alors, il y a un télescopage de choc. Et évidemment, il faut agir, il faut faire quelque chose. Mais moi, ce qui me surprend dans tout ça, c'est l'absence de discussion sur le temps long. On l'a vu, il est possible, on peut craindre que ça s'installe, l'inflation, et que ça dure. On connaît l'état des finances publiques. On ne peut pas supporter une hausse des taux, même si elle est nécessaire, au risque de mettre l'État en faillite, hein, par le service de la dette et autres. Donc il faut faire preuve de créativité, d'innovation. Il faut aller chercher des systèmes. Alors, vous avez cité l'État, les entreprises, les ménages. On doit tous trouver des façons nouvelles de se comporter et de consommer pour résister à cette augmentation.
Ce que vous dites, c'est que l'inflation, elle est là, elle risque de s'installer. Et que la contrainte climatique fait qu'on ne pourra plus consommer de façon open bar comme autrefois.
Exactement.
Et donc, il faut...
Exactement. Et dans la période... alors, c'est une période électorale. On peut comprendre qu'on agit, qu'on communique...
Dans l'urgence.
Dans l'urgence. Mais tout ça ressemble tout de même pas mal à des rustines. On met des rustines à gauche, à droite, et on n'installe pas les choses sur le long terme. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on entend de plus en plus parler de planification. Il n'y a pas que des côtés positifs à la planification, bien entendu. Mais une planification pour une transition écologique, ça, c'est un bon signe pour la planète et probablement pour résoudre ces problèmes. Installer des solutions durables, à tous les sens du terme, pour maintenir un niveau de vie, hein, plutôt qu'un pouvoir d'achat, des conditions de vie acceptables.
Et sortir de la logique de la rustine. Jade Grandin de l'Éprouvier, on a l'impression qu'on est, pour le coup, on s'est habitué au chèque, là, maintenant. Hein. Il y a eu le chèque inflation, le chèque... on est à deux doigts de créer un chèque loyer, là, d'ailleurs, hein, face
peut-être
à la hausse des loyers.
Peut-être un chèque alimentaire aussi, qui
chèque
sera
alimentaire.
Un chèque alimentation qui sera créé. Et il faut se méfier parce que le problème des chèques, c'est que vous avez le danger de renchérir l'inflation. Si jamais vous faites un chèque pour un panier de produits et services trop restreint, par exemple, imaginons un chèque sur les produits frais. C'est des produits dont les prix augmentent énormément. Donc vous donnez un chèque en disant, voilà, vous pouvez acheter des fruits et légumes frais. Eh bien, dans ces cas-là, il y a un risque que les producteurs de fruits et légumes frais se disent « Ah, bah, très bien, les consommateurs ont plus d'argent.
Ils ont un ticket resto.
Ils vont venir. Donc moi, si j'augmente discrètement mes produits très légèrement, ils vont absorber cette hausse. » Et donc, dans ces cas-là, il y a un danger de renchérir l'inflation alors que votre chèque visait à justement la compenser. Donc, il faut se méfier des chèques. A contrario, les chèques ont un avantage, c'est qu'ils permettent d'être ciblés sur une catégorie de population en particulier. Et probablement que le chèque alimentation sera ciblé sur les ménages modestes. Et ça, c'est un avantage parce que pour le coup, le problème de la France aujourd'hui par rapport aux autres pays européens, c'est qu'elle a fait beaucoup de mesures sans aucun critère. Par exemple, bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité, remise à la pompe.
C'est-à-dire qu'on arrose tous les Français au lieu de cibler les populations les plus modestes.
Voilà. Et là, le problème, c'est que ça coûte extrêmement cher. Enfin, rendez-vous compte, arroser en effet tous les Français, et ça coûte très cher, donc du coup pour une efficacité un peu limitée, parce que par exemple sur la subvention à la pompe, il faut quand
les
même reconnaître
centimes.
Que les 18 centimes, on subventionne avec des milliards d'euros des gens qui vont rouler en Porsche Cayenne très vite et faire des kilomètres, et ces gens ne sont pas du tout incités à moins rouler. On leur dit, on va s'endetter, la dette publique est très haute, pour que vous puissiez rouler moins cher et encore plus haut. Et en plus, le gouvernement, au départ, avait dit on va garder le signal prix pour que les gens ne soient pas incités à trop prendre d'essence. On va, en gros, afficher les prix à la pompe comme sans remise. Et normalement, la remise, la réduction, devait être faite en caisse. C'était un énorme argument de l'État pour dire je garde un signal prix pour que les consommateurs voient que ça reste
tiens, 2,20€ le litre, voilà, donc il faut que je passe à l'électrique.
Il faut que je roule avec une conduite plus prudente et économique, ouais, etc. Et en fait, il a abandonné en disant bah, c'est trop compliqué. Il y a comme ça beaucoup d'ambition où l'État dit ah oui, il faudrait mieux cibler, il faudrait garder le signal prix. Et en ce moment, on revient un peu sur toutes les ambitions. Pareil, la taxe carbone au niveau européen a été abandonnée pour les ménages. Donc il y a eu le calendrier électoraliste joue beaucoup, il y a eu l'élection présidentielle, donc on se disait bon bah c'est dans la perspective de la présidentielle et maintenant les législatives et là ce paquet pouvoir d'achat qui est en préparation, il y a aussi un peu un doute de dire est-ce que le gouvernement ne fait pas beaucoup d'annonces parce qu'il veut avoir une bonne majorité aux législatives.
En plus il est soupçonné d'électoralisme derrière ces mesures qui coûtent très cher. Jean-Marc Daniel, quand Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie qui va le rester, dit « nous sommes face à des difficultés économiques considérables, le plus dur est devant nous », à quoi pense-t-il ? C'est ce dont parlait à l'instant Éric Champarneau, c'est-à-dire qu'on est dans une logique de rustine, alors qu'en fait c'est le pneu, la façon de conduire qu'il faudrait changer.
Oui, je pense que c'est la façon de conduire qu'il faudrait changer. Alors, le plus dur est devant nous, c'est une formule assez éculée. C'est régulier, c'est tout va mal. Et puis, en plus, il vaut mieux dire ça, parce que si ça va moins mal que ce qu'on pouvait craindre, on dit, voyez, finalement, grâce à nous, et c'est sûr qu'on est vraiment dans une logique de rustine. On l'a dit, c'est subventionner à la fois l'importation, parce que le pétrole est importé, et la destruction du climat, puisque le pétrole, c'est complètement aberrant. C'est-à-dire, et en plus, l'utilisation de l'État, il ne faut pas se faire d'illusions, ça ne crée pas du pouvoir d'achat, ça en transfère. Soit on finance toutes ces mesures par des impôts, et ça veut dire que comme l'inflation, on prend aux uns pour donner aux autres, simplement là, on prend aux contribuables pour donner à l'ensemble des gens qui achètent de l'essence, soit on prend par la fin intermédiaire de la dette, on prend à la génération future. Et donc on est en train d'organiser le financement de l'Arabie Saoudite et du Canada par la baisse de pouvoir d'achat de nos enfants. Donc il y a quelque chose qui est insupportable sur le plan intellectuel. La deuxième remarque que je ferai, c'est la schizophrénie. Elle est dans le fait que tout ça est incohérent. On a parlé de la taxe carbone. Je rappelle qu'il y a encore 2 ans, on subventionnait à hauteur de 50€, ce n'était pas beaucoup, la réfection et la réhabilitation de votre vélo pour vous inciter à ne pas consommer d'essence. Et maintenant, on vous subventionne pour acheter de l'essence. Et donc, le même gouvernement, le même Bruno Le Maire, qui était venu avec des trémolos dans la voix nous expliquer qu'il fallait qu'on pédale, est en train de nous dire, rassurez-vous, vous pourrez prendre votre voiture. Donc, tout ça est assez incohérent. Donc, tout ça est à courte vue, c'est-à-dire on peut considérer que sur les 18 centimes par litre, c'est l'achat de l'élection d'une certaine façon. Donc il y en a d'autres qui ont fait ça avant, mais bon, donc ce n'est pas soutenable durablement. Ce que je trouve le plus intéressant par rapport à Bruno Le Maire, c'est le changement d'appellation de son ministère. Dans le gouvernement précédent, il était ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Maintenant, c'est souveraineté, non ?
Exactement. C'est-à-dire qu'on a, dans la vraie réorientation du gouvernement par rapport au quinquennat précédent, on a véritablement un basculement de ce gouvernement et de notre président de la République d'une logique, la start-up nation, la modernité, à une espèce de vision un peu de rétractation, de protectionnisme. On va être souverain, on va être nous-mêmes.
Mais parce qu'on s'est rendu compte que dépendre de la Chine pour les masques et dépendre du pétrole pour la Russie, ça avait aussi des inconvénients.
La question est de savoir, est-ce qu'il faut implanter des usines en Inde pour essayer de contrecarrer le monopole chinois, ou est-ce qu'il faut les remettre dans le Massif central ? Alors que je pense qu'il vaut mieux remettre certaines usines en Inde et mettre des start-up dans le Massif central.
Alors, en tous les cas, cette hausse des prix des énergies fossiles, elle est là pour durer. Elle touche les particuliers, mais elle touche aussi les communes et les communes qui sont moins aidées. Eh bien, résultat, vous avez par exemple dans les Deux-Sèvres, 2 piscines qui seront fermées cet été, tout simplement parce que les municipalités ne peuvent plus payer la facture de gaz, donc il fera chaud, mais la piscine sera fermée. Reportage d'Alain Darigan et Eléa Timène.
Le talent touche bien les fesses, hein ?
C'est un cours d'aquagym qui suffit à peine à calmer les esprits. Dans un peu plus d'un mois, cette piscine publique de Cerizay va fermer provisoirement ses bassins en raison des surcoûts de l'énergie. Un sale coup pour les utilisateurs la veille des grandes vacances.
Là, on avait tout à proximité. J'habite à 150 mètres de la piscine. C'est très, très dommage.
Avec les familles qui ne peuvent pas partir en vacances et qui sont sur place et qui n'avaient peut-être que ça comme loisir, eh bien, franchement,
c'est honteux.
C'est honteux. Oui.
Une décision assumée par les élus, la facture énergétique globale de l'agglomération bressuirese est passée brutalement de 1 million d'euros à 2,4 millions. Il a donc fallu faire des choix.
on avait deux postes qui sont très énergivores. C'est un, les stations d'épuration, et deux, les piscines. Bon, chacun comprendra que pour les stations d'épuration, il n'était pas question de fermer.
Pompe de filtration, chauffage, ventilation, les piscines réclament beaucoup d'énergie pour fonctionner comme cet appareil.
Alors là, c'est une centrale de traitement d'air. Ça permet de chauffer et déshumidifier l'air. Et c'est une bonne partie de notre consommation d'énergie puisque on est à peu près à 42 000 euros de gaz par an, plus une facture de 35 000 euros de bois.
Avec une augmentation de 130% sur le gaz et 115% sur l'électricité, le surcoût est estimé entre 200 et 300 000 euros par an.
La fermeture de cet été nous permet de limiter la casse, hein, d'amoindrir un petit peu les conséquences pour la collectivité, mais ne permet pas, comme vous le comprenez, de gommer en totalité les frais supplémentaires liés à ces augmentations.
Lot de consolation pour les utilisateurs. Sur les 6 piscines de l'agglomération, 4 resteront ouvertes. Mais pour les habitants de Cerizay, il faudra prendre la voiture pour se rafraîchir.
Éric Champarnon, on a l'impression, ça y est, que la facture est en train d'arriver. J'allais pas dire comme les Grecs, mais qu'avant on était dans le plus de confort. Bah là, la piscine municipale, ouais, de notre enfance, j'allais dire, elle ferme.
Alors, c'est triste. Il y a un Français sur deux qui part pas en vacances chaque année. Donc, effectivement, ne même plus pouvoir aller se rafraîchir ou s'amuser à la piscine, c'est très triste. Les plages ont resté ouvertes, les lacs, les rivières. Est-ce qu'on n'a pas pris de mauvaises habitudes? Est-ce qu'il fallait chauffer l'eau à ce niveau-là? Donc on ne change pas le système, j'imagine, je ne suis pas technicien dans une piscine aussi rapidement, mais les mots dont on va beaucoup entendre parler, je parlais de créativité, d'innovation, c'est frugalité.
L'Ukraine est un accélérateur d'une tendance qu'il fallait mettre à l'œuvre, en ce sens qu'elle fait monter les prix de l'énergie.
Et exactement, alors il y a des situations qui vont être terrible hein, à l'extrême, mais je n'arrive pas à m'empêcher de penser au signal positif. Un prix qui augmente, c'est un signal positif. On ne change pas ses habitudes à moins d'être au pied du mur. On le sait bien, on a tous ces difficultés à être en phase avec notre conscience environnementale, plus ou moins. Et là, globalement, le signal est là. Et on va arrêter d'aller dans une piscine qui est peut-être un peu trop chauffée, d'ouvrir des piscines en plein air et en plein hiver.
Le prix du gaz restera durablement élevé. C'est d'ailleurs ce que dit le patron d'Engie, hein, parce qu'il faut financer la transition écologique.
Oui, et puis bon, voilà, il y a les phénomènes géopolitiques qui, hélas, manifestement, ont l'air de s'installer dans la durée. Et les solutions de faire venir du gaz de schiste
des États-Unis,
c'est pas une solution. Donc, déplétion des énergies fossiles, côté énergie, c'est parti pour durer.
Et Jade Grandin de l'Éprevier, on sait qu'on n'est pas sûr de pouvoir remplir toutes les cuves de gaz pour l'hiver prochain, parce que Vladimir Poutine à tout instant peut couper le robinet. Donc on envisage de rationner le gaz. Est-ce qu'il y a un moment, il faudra se poser la question, on rationne qui ? Les particuliers, les entreprises, on reste chez soi mais on n'a plus de boulot. Est-ce que ce genre de questions commence à agiter les chancelleries d'Europe de l'Ouest ?
Oui, bien sûr. D'ailleurs, le gouvernement français réfléchissait à ça avec les industriels. En disant, ils ont commencé à préparer des plans en disant si jamais, et c'est normal, il faut se préparer, si jamais en effet on n'a pas assez de gaz ou la Russie ferme le robinet, quelles usines sont indispensables pour l'activité du pays, donc où est-ce qu'il faut absolument qu'il continue à y avoir la bonne quantité d'énergie, et à contrario, lesquelles on peut rationner en disant vous pouvez consommer tel jour et pas tel jour, ne consommez pas pendant les pics, donc ça... Le gouvernement y travaille parce qu'en effet, c'est vital pour que le pays continue son activité. Ouais. Et cet exemple de la piscine, je trouve, est assez frappant. On peut aussi le voir positivement, c'est-à-dire qu'il faut bien un moment que certains changent de comportement. Et là, ils ont fait un choix. Personne ne les a forcés à fermer la piscine. C'est pas l'État qui a dit vous allez la fermer, la piscine. C'est vraiment le prix qui est devenu, où là, ils ont fait un choix en disant on préfère garder... l'évacuation, les égouts qui fonctionnent parce que c'est vital, et on ferme quelque chose qui consommait beaucoup trop. Et en fait, jusqu'à présent, on était beaucoup dans l'incantation, dans la théorie, en disant tout le monde est pour la transition énergétique, mais comme le prix était maintenu à un niveau acceptable, personne ne changeait de comportement. Et là, évidemment, on monte le prix et on commence à changer de comportement. Et tout à l'heure, on parlait des usines, des entreprises qui peuvent fermer. La même question se posera en effet pour les particuliers, les consommateurs. Il suffit que les gens baissent tous d'un degré, je crois, le chauffage dans les appartements pour faire des économies d'énergie énormes. Et quand vous demandez aux gens, est-ce que vous êtes prêt à baisser d'un degré la température dans votre pays pour qu'on évite d'envoyer des milliards d'euros à la Russie, Mais les gens disent, mais bien sûr que je suis prêt à faire ça, parce que mes valeurs sont en jeu. Je ne veux pas qu'on envoie autant d'argent à la Russie, qu'on finance cette guerre en Ukraine. Sauf que le gouvernement a du mal à poser cette question en ces termes aux consommateurs. Donc pour le moment, c'est très théorique. Et du coup, personne n'a formulé, OK, on va tous baisser la température cet hiver. Et voilà les conséquences que ça aura. Pour le moment, ça reste un peu dans l'air.
Mais justement, pour voir ô combien c'est compliqué de mettre en pratique cette transition écologique, ô combien c'est compliqué de sortir du diesel, je vous propose un reportage très éloquent, passionnant, dans un garage dans le Loiret. Vous allez comprendre, et le garagiste vous explique très bien ô combien c'est difficile de mettre en pratique, de mettre en musique cette transition à laquelle on aspire. Tout reportage à côté d'Orléans, d'Alexis Delcourt, Christophe Paris et Eva Penaud.
Je m'appelle Johan Fauvin, je suis garagiste dans le Loiret. Je me rappelle de cet article, le Loiret, le peuple du diesel, ça inspire la réalité. Nos parents ont été incités à rouler au diesel. Le parc est toujours présent, on ne peut pas le remplacer en claquant des doigts. On a encore le besoin d'utiliser notre voiture tous les jours pour tous les besoins de déplacement. Les transports en commun sont inexistants dans nos petites communes. Maintenant, je crois vraiment qu'on est stigmatisé parce qu'on a tellement développé cette culture du diesel et brutalement, on nous dit « non, finalement, c'est pas bien ».
L'accident bête.
Parce que devant, on a eu des 4 saisons.
Oui, on restera chez Michelin.
Dès que ça sera prêt, la voiture sera
oui.
prête.
Oui.
Là où c'est moins cher, c'est possible.
Je travaille sur Amazon, donc ça fait 160 km aller-retour. J'ai eu un problème un jour où il y a eu un... Ça m'a marqué, attention, arrêt moteur, moteur en détresse, ou je ne sais pas quoi. Je suis venue voir M. Fauvin. Il m'a dit que le moteur était à changer. Donc, j'ai fait quand même un crédit pour payer le moteur. Donc, il m'a changé tout le moteur. Parce que j'ai pas le choix, quoi. Une voiture récente, je peux pas, j'ai pas les moyens. Et les voitures électriques, on n'en parle même pas. Vu le prix, c'est pas la peine.
On est quand même sur un véhicule qui a des kilomètres, hein.
Ouais, plus de 300 000, oui. Ça roule encore pas trop mal. On va le prolonger. A priori, si j'ai bien compris, moi, la dame veut pas le changer. Les 300 000 km aujourd'hui sont quelque chose de très, très, très régulier dans les véhicules qui arrivent ici à l'atelier. Il y a quelques années, à 200 000 km, les gens se demandaient s'ils allaient la garder. Généralement, il a changé. Aujourd'hui, il la garde. Ici, on a une flotte de véhicules qu'on prête aux clients. C'est un service que je ne facture pas. La voiture, elle est gratuite. Les gens ne peuvent pas se passer de la voiture. Non, c'est un vrai handicap de ne pas avoir de voiture dans notre région, en tout cas. Et ben, j'ai cette voiture-là à te proposer. Clio.
C'est une voiture d'occasion que je vais acquérir.
Tout à fait.
Qui a 200 000 km.
Elle est pas mal.
Ouais. J'en ai une qui a 320 000 qui roule bien malgré tout. Hein. Mais bon, il faut commencer à penser à changer. Donc voilà, quand je me suis dit, j'avais acheté une voiture dans les 1 500 à 3 000 euros. Donc je suis sûre qu'elle va me faire une paire d'années tranquille. Et tout ça pour un moindre frais.
Le changement qu'on nous demande, il est brutal, c'est ça. Là. On nous demande de passer d'un diesel qu'on connaît depuis toujours, quasiment de basculer tout de suite à l'électrique. La cassure, elle est énorme. Et puis les tarifs des voitures, c'est pas anodin. Dans une époque où on est tous un peu écolo, on jette pas pour jeter, en fait. Le véhicule fonctionne toujours, encore très bien. Peut-être que finalement... Le fait de ne pas en fabriquer un nouveau pour remplacer celui-là, c'est pas plus polluant que ça, en fait.
Ça fait réfléchir, Jean-Marc Daniel. Et puis, ça interroge sur ses incantations. Ah, il n'y a qu'à acheter une voiture électrique à 17 000 euros. Là, la dame, vous.
Oui, je suis d'accord avec l'idée qu'à la fois, il y a beaucoup d'incantations et en plus, elles sont contradictoires. Le garagiste le dit bien. Il y a encore 10-15 ans, on n'arrêtait pas de dire aux gens, passez tous au diesel. Et on a subventionné, on a favorisé le passage au diesel. Et brutalement, on dit, c'est plus du tout ce qu'il faut faire. On va passer à autre chose. Et donc, je crois qu'on a parlé du mot planification. C'est un mot que j'aime pas beaucoup, mais je pense qu'effectivement, une planification, si c'est une vue à long terme, à moyen terme, c'est ce dont nous avons besoin. Indépendamment de la crise en Ukraine et de ce qui se passe avec la Russie, il faudra augmenter le prix de l'essence, maintenir un prix des hydrocarbures élevé. L'idée d'augmenter le prix de la tonne de carbone, de faire en sorte que cette énergie polluante qui détruit la planète soit de plus en plus chère, est une idée qui va survivre à ce qui se passe en Ukraine.
Alors, donc il ne faut pas s'accrocher à ces anciens modèles.
Il faut accepter l'idée qu'effectivement on va vers une transition. Le mot transition est un bon mot, parce que jusqu'à présent, on était plutôt de rupture en rupture. Brutalement, on change de pied, on passe à autre chose et on prend les gens totalement au dépourvu. Alors après, par rapport à ce qui s'est passé, je pense assez souvent à Suez en 1956. Guy Mollet, même situation, une guerre, on va manquer de pétrole. Il dit « je fais appel au civisme de la population ». Je fais rien. La population a conscience, il voit bien ce qui se passe. Bon, 3 mois après, il y avait des tickets de rationnement. Il dit, écoutez, ils sont pas.
Mon appel n'a pas été entendu. Je rationne.
Bon, donc je pense que la véritable solution, c'est d'être entre les deux. C'est-à-dire, pas de dire aux gens, oui, mais allez-y, je vous fais confiance, vous rendez bien compte. Et puis, après, brutalement, de leur dire, donc c'est fini, vous abandonnez le diesel, je cogne à gauche, je cogne à droite. Je crois qu'il faut organiser, effectivement, la transition écologique hors-delà de l'incantation.
Et d'ailleurs, on cogne, Éric Champarnaud. À partir de juillet prochain, les voitures critères 3 ne pourront plus avoir accès à Grenoble. À partir de 2020, du 1er janvier 2023, les critères 3 également ne pourront plus avoir accès au Grand Paris. Toutes ces voitures qu'on vient de voir, elles vont être progressivement. Ouais. Voilà, alors c'est des gens. On s'interroge d'ailleurs sur l'acceptabilité sociale. Vous avez un taco, vous ne pouvez plus rentrer dans les centres-villes. Donc. On est quelque part assigné à sa zone polluée. Quoi.
Absolument, absolument. Vous faites référence
aux ZFE, aux zones à faible émission.
Donc on travaille beaucoup chez Seaway sur cette question. On demande aux gens de renouveler le parc 4 à 5 fois plus vite que ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Ça ne passera pas en l'état. Ça passera pas en l'état parce que les véhicules électriques, on l'a dit, 17 000 euros ont été cités, mais 17 000 euros, c'est vraiment un véhicule électrique pas cher du tout, hein, difficile à trouver. Quand bien même, il arrive de Chine. Donc globalement, il y a un souci à ce niveau-là. Et là encore, il y a quand même des solutions.
Alors le gouvernement parle de son offre de leasing avec social. Pourrait à moins de 100 euros par mois, on pourrait louer une voiture
absolument.
Électrique.
Alors là, l'équation économique, c'est pas simple, hein, parce que créativité financière sur un leasing, ça rend pas une voiture chère moins chère. Globalement, on allonge la durée du leasing. On était peut-être allé un peu trop loin. Hein. On faisait renouveler les voitures tous les 3 ans. Avait-on réellement besoin de renouveler un véhicule tous les 3 ans? C'est pas certain. Là, on entend parler dans les grandes banques de leasing sur 10 ans. On peut imaginer un abondement de l'État. On peut imaginer également des efforts sur les marges du système bancaire et on finira par y arriver. Mais il y a encore une fois d'autres solutions intermédiaires hein, avant d'arriver au produit. Parce qu'en plus, les voitures manquent aujourd'hui. Hein. Le problème d'approvisionnement donc qui risque aussi de durer, donc on ne pourra pas les renouveler. Et entre les deux, un peu moins se déplacer. Les entreprises peuvent inciter au télétravail. Hein. Le pendulaire, ça pèse lourd dans les kilométrages. Aller un petit peu moins loin.
C'est aller le matin à son travail, revenir chez soi le soir, 2 fois par jour.
C'est une grosse partie des mobilités. Donc si on télétravaille 1-2 jours, ou la moitié du temps à fortiori, on fait moins de kilométrages, on a moins besoin de voitures. Autre solution qui ne nécessite pas de matériel, qui ne pollue pas, c'est la lutte contre l'autosolisme. Arrêter d'être seul dans sa voiture et inviter des voisins, des collègues à partager. Et puis, on terminait avec ces véhicules qui peuvent encore rouler à 200-300 000 km. Il y a une solution qui est en train d'apparaître. Alors, c'est pas gagné industriellement, mais c'est le rétrofit. On garde l'essentiel de la voiture, on supprime le moteur qui pollue et on met un véhicule électrique.
On vous met un moteur électrique dans votre vieille R5.
Exactement. Et vous avez un nouveau plaisir de conduire, vous ne polluez pas. Il y a beaucoup de solutions.
Jade Grandin de l'Éprouvier, sauf qu'on sait, et le gouvernement a payé pour voir, que ces matières sont inflammables. Les gilets jaunes, je crois que l'essence à l'époque était à 1,60. Hein.
Ouais.
Là, on est à 2 euros du litre. Et à 1,60, ça avait suffi à déclencher le mouvement des gilets jaunes.
On a appris de nos erreurs et on sait maintenant qu'on ne peut pas mettre en place une taxe carbone et donc avoir des prix de l'énergie qui augmentent sans compenser les ménages à la fois les plus modestes, ruraux, et qui dépendent vraiment de ça pour aller au travail, etc. Le problème, c'est qu'il y a une règle un peu en finances publiques, c'est qu'en gros, on n'a pas le droit d'utiliser des recettes, par exemple les recettes de la taxe carbone, pour une dépense prédéterminée à l'avance. Parce que évidemment, tout le monde dit, mais c'est simple, on met en place une taxe sur le carbone pour tout le monde,
et on l'affecte.
Et les recettes de cette taxe, eh ben, on l'affecte pour compenser les ménages les plus modestes et ruraux qui en ont besoin. Et donc, il y a peut-être un tabou qui va être brisé. En tout cas, de plus en plus de personnes plaident pour cette règle qui dit on n'a pas le droit de dire cette recette, on va l'affecter à telle dépense. Peut-être qu'il faut briser ce tabou. Et là, au ministère de l'Économie et des Finances, beaucoup de personnes dans l'administration seraient choquées. Mais en tout cas, on sait que c'est ça la solution pour, en effet, compenser les gens qui en ont le plus besoin. Parce que quand on regarde l'argent dépensé, D'ici à la fin d'année, le bouclier tarifaire, les mesures énergie, enfin, si on prend vraiment tout, les économistes estiment que ça pourrait représenter 46 milliards d'euros. C'est énorme. Pourquoi ? Pour enlever en gros 2 points d'inflation. Seulement 2 points, enfin 2 points, mais pour tout le monde. Et alors, vous dites, mais si on prenait cet argent pour ne pas compenser tout le monde, on dit, bah, y a des gens, ils ont les moyens d'absorber ce coût de l'énergie qui monte et peut-être que du coup, ils vont moins prendre leur voiture. Mais cet argent, on va vraiment le cibler sur cette dame qui doit aller au travail avec sa voiture. On va du coup donner des primes à la voiture électrique beaucoup plus importante. On va, et ben peut-être que ça serait, enfin ça serait.
Pourquoi on le fait pas ? Parce que c'est difficile d'aller trouver le gros rouleur qui utilise sa voiture pour aller travailler et qui n'a pas les moyens. En fait, il faut des fichiers ultra.
Ça, c'est un argument qui est mentionné par le ministère de l'économie, mais certains disent que c'est un argument fallacieux et qu'il ne faut pas s'embêter avec tout ça. Il faut juste dire on subventionne les plus modestes et c'est tout. Et ça sera déjà bien mieux.
Alors, puisqu'on parle de pouvoir d'achat, on va quand même parler du poste numéro 1 de dépenses dans les ménages. J'ai nommé l'immobilier. L'immobilier qui augmente parce qu'on apprend que les loyers, alors les salaires ne sont pas indexés sur l'inflation, mais les loyers sont indexés sur l'inflation. Donc sans rien faire, vous voyez votre loyer augmenter, c'est ainsi. Du coup, il y a un débat, faut-il désindexer les loyers qui augmentent. Sujet de Maëva Damois, Dorothée Lachaud et Luc Edrich.
Quand l'inflation s'élève, les prix des loyers s'envolent aussi. Certains locataires rencontrés cet après-midi à Paris viennent d'en faire l'expérience. Leurs quittances ont été réévaluées.
Ça a augmenté de 15 euros par mois. Ça fait mal au porte-monnaie, je pense, sur le long terme.
Je peux me passer d'autres choses, je peux me passer de voiture, l'essence a augmenté aussi, on peut se déplacer moins, prendre les transports. On ne peut pas décider de vivre dans la rue une semaine par mois. C'est compliqué.
Le loyer peut être révisé une fois par an à partir d'un indice de référence, l'IRL. Il suit le cours des prix à la consommation. Résultat, plus 2,48% au premier trimestre. Une hausse que le propriétaire peut répercuter sur le loyer. Concrètement, un 3 pièces à 700 euros peut désormais passer à 717,35 euros par mois, soit 208 euros de plus en un an. Cette association de défense des locataires demande à l'État de bloquer les loyers.
Avec la crise du Covid, avec la crise de l'Ukraine et avec la crise des fluides et du chauffage. Donc tout ça, c'est plus supportable pour les locataires.
Une demande jugée injuste par les représentants des propriétaires.
Les propriétaires sont aussi touchés par l'inflation. D'une part, quand leurs revenus baissent, quand ce sont des compléments de revenus, notamment on pense aux retraités, eh bien, ils payent comme tout le monde leurs produits du quotidien. Et donc si on baisse les loyers, on baisse leur pouvoir d'achat à eux. Et puis ils subissent l'inflation aussi sur les taxes foncières, sur les charges et les travaux.
Contacté, le ministère de l'économie précise que rien n'est acté, mais qu'il reste à l'écoute des deux parties.
Bon alors Éric Champarneau, c'est toujours pareil sur ces sujets. Si jamais on gèle les loyers, c'est les propriétaires qui ne sont pas contents.
Ouais, là,
alors on fait les mécontents, il faut choisir son camp.
Problème compliqué, encore une fois, cas par cas, discernement, aller voir un peu quelles sont les situations des locataires, des bailleurs ou des loueurs. Un dernier mot, on est vraiment dans le cœur des choses là. Le post-logement, pense contrainte, frôle les 30% aujourd'hui.
Vous trouvez qu'on en parle peu par rapport à ce que ça pèse ?
En tout cas, c'est là où ça fait mal. Hein. Ce n'est pas une dépense discrétionnaire, on est obligé, la dame le disait, de se loger et on prend de plein fouet les hausses.
Jean-Marc Daniel, on a envie d'aider le locataire, quand même plus modeste que le propriétaire qui a un bien.
Oui, mais la conséquence de tout ce qu'on a fait en faveur du locataire jusqu'à présent, parce qu'ils sont assez protégés par rapport aux propriétaires, c'est qu'on manque globalement de logements. L'investissement locatif est un investissement qui est assez peu rentable et assez peu prisé en fin de compte. Et je pense que il y a un vieux principe qui a été énoncé par un économiste suédois qui s'appelle Assar Lindbeck, qui disait « Vous avez deux façons de détruire une ville ». La première, c'est de la bombarder.
Oui.
La deuxième, c'est de bloquer les loyers. Et donc, je pense que ça reste d'actualité.
C'est la fausse bonne idée dont il faut se méfier.
Absolument.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir participé à cette Info C'est Clair. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Bonne journée sur France Info. Je rappelle que l'Info C'est Clair est disponible en podcast audio gratuitement sur toutes les bonnes plateformes. Bonne journée et à demain.